C'est déjà nu, le bout est rouge, donc c'est à nous.
Le bout est rouge.
Ouais, j'aime bien ah. J'aime bien la faire celle-là.
Alors top départ Gérald.
Ça commence bien.
Donc c'est mission de rentrée. Donc à la rentrée, vous avez vu, on n'a pas droit au jingle de début. Ouais. On n'a pas le droit de jingle de début. Par contre, ce qu'il y a de très bien, c'est que Laurence est de retour.
Oui, bonsoir voilà. Tout le monde.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir Laurence.
Voilà, donc Laurence, après une absence assez longue, mais qui était due à la, pour la bonne cause.
Oui, ah, oui.
Voilà.
Puisque... repeupler la planète.
Voilà. Il a fallu que tu t'occupes de Garance.
Voilà, c'est
voilà.
Ça.
Et j'avais prévu un petit... merci Boris. Voilà, j'avais prévu quelque chose pour toi. C'est pas
oh.
Ça, ouais. Parce qu'il y aura un petit... mais bon.
Qu'est-ce que c'est?
Oh, le jingle.
Voilà, ah, merci les petits choux. Ah, je me suis honorée.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est Romain. Déjà? Ah, mais tout arrive en même temps. Oh, Romain.
Ah, voilà, il me vole la vedette. On peut pas s'en empêcher, celui-là.
Hein. On était sur Laurence.
Ça faisait beaucoup de monde, hein. Bon, du coup, c'est Romain que j'ai au téléphone maintenant.
Allô.
Bonsoir Romain.
Bonsoir Romain.
Bon, alors bonsoir. On avait dit bonsoir. Voilà, du coup, j'ai pas eu le temps de présenter toutes les personnes qui sont autour.
Oui, direct
peut-être
Romain.
Peut-être dans nos auditeurs ont reconnu la voix de Jeffrey Jordan, peut-être.
Yeah.
Et puis nous avons aussi Olivier, Olivier Ray de La Voix Publique et qui
bonsoir.
Est venu, bonsoir. Qui est venu accompagner de Joanne.
Joanne Boutin.
Qu'on présentera tout à l'heure puisque vous êtes venu aussi parler
d'une
actualité théâtrale notamment. Eh bien Romain, bonsoir. Donc voilà, c'est l'émission de rentrée ce soir et c'est aussi le numéro de rentrée de Hétéroclite qui est fêté comme habituellement par la soirée des rotatives. Hein, c'est la cinquième, je crois.
Tu n'es pas encore bourré, Romain, ça va?
Oh, la réputation.
Non, en fait, il m'a demandé de l'appeler justement à 20h pour être sûr.
Pour être bien clean.
Voilà. Alors donc, c'est en direct du... Alors, en duplex, n'est-ce pas? Du Simple Food.
Oui, c'est ça.
À 5 km d'ici. Donc, c'est un nouvel établissement, je crois. Olivier m'en a un petit peu parlé.
Non, en fait, l'établissement existe depuis plusieurs années, mais là, il a été repris par un nouveau propriétaire.
Ouais.
Depuis quelques mois seulement.
D'accord.
Et c'est vraiment une adresse à découvrir. On a pu goûter le buffet,
ouais.
Et, qui était très bon.
Je te fais confiance là-dessus. Et du coup, donc les rotatives ce soir se passent dans ce lieu.
Voilà, dans le 7e. C'est la première fois que les rotatives viennent dans le 7e. Et écoutez, il y a pas mal de monde.
Ouais. Bah si c'est bon déjà. Et puis bon, Hétéroclite le voit bien aussi. Hétéroclite, c'est quel combien dième numéro du coup?
Le 125e numéro déjà.
Ah, ouais.
C'est beau.
Eh oui, comme le temps passe, c'est le numéro de rentrée. Alors, moi j'aime bien savoir ce qu'il y a un petit peu dans Hétéroclite, sans tout dire, parce qu'il faut que les lecteurs découvrent le journal par eux-mêmes, mais j'aime bien savoir un petit peu la tendance, on dira, la tendance éditoriale du numéro. En cours. Et là, de quoi alors qu'est-ce qui t'a énervé au mois de septembre, du moins cet été que tu as transcrit dans ton éditorial du mois de septembre?
L'éditorial, je parle de 120 battements par minute et surtout de, en fait, de toutes les discussions qu'il y a eu autour de 120 battements par minute, autour de ACT UP et de ce que ça représentait dans l'histoire du mouvement gay français et de cette espèce de, d'activisme radical qui est assez unique. Dans le mouvement gay français et je parlais des parallèles qu'on peut faire avec notre présent puisque le film se situe quand même au début des années 90 et je parlais de la polémique qui a eu lieu cet été à propos d'une association féministe musulmane qui s'appelle l'ALAB qui a été très vivement attaquée sur les réseaux sociaux parce que c'est une association féministe et musulmane enfin de féministe qui vient en aide aux femmes musulmanes dans leur lutte contre la double oppression que ces femmes peuvent subir en tant que femmes et en tant que musulmanes, donc contre les oppressions sexistes et islamophobes. Et cette association a été très vivement attaquée et Libération a publié une tribune de soutien qui a été signée notamment par Benoît Hamon, par beaucoup de gens, par des associations féministes, par le planning familial. Et il y avait notamment ACT UP Paris et d'autres, des personnes qui ne tombent plus à ACT UP, mais qui étaient au moment où le film de Robin Campillo se déroule. Et je me suis dit que oui, ça faisait un beau clin d'œil finalement, de voir que ces gens-là, 25 ans après, ils sont toujours engagés dans des combats, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais ce qui m'a frappé, c'est que ACT UP aussi, au moment où le film de Robin Campillo se déroule, était extrêmement attaqué, un peu comme La Lab a été attaqué cet été, avec des arguments qui sont parfois assez proches, assez similaires, des accusations de communautarisme, par exemple, ce genre de discours-là. Et quelque part, ça prouve que cet activisme radical d'ACT UP, il n'a pas tout à fait disparu.
Et ça, voilà, ça t'en as parlé, tu en parles dans ton éditorial.
Voilà, exactement.
Nommément de La Lab, quoi, de cette association.
Oui, ouais.
C'est ce qui t'a,
ouais.
C'est l'événement qui t'a marqué cet été. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler via les réseaux sociaux, en fait.
Hein. Oui,
on a vu effectivement divers arguments qui ont été.
Oui, il y a eu beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.
Peut-être parce que les gens se sont dit c'est Francis Lalanne, non ? Ça n'a rien à voir, non ? Je ne sais pas.
Peut-être.
C'était Jeff et Jordan.
Non, c'est pas de Cussard.
Est-ce que je remets le jingle là aussi ?
Mais c'est quand même, enfin je veux dire, c'est quand même frappant que dans la France de 2017, on puisse s'attaquer aussi violemment à une association féministe parce qu'elle n'est pas forcément, elle ne ressemble pas forcément à d'autres associations féministes qui sont peut-être plus blanches, qui sont peut-être sur d'autres thématiques, etc. Et ouais, je trouve que c'est quand même inquiétant qu'on en soit là, quoi, qu'on en soit à devoir défendre une association féministe qui est attaquée.
Mais en fait, je me permets d'intervenir, Gérald. En fait, le problème, c'était quoi, en fait, avec l'association c'est que. En fait, c'est le problème, c'est de défendre des femmes qui sont voilées et qui assument de porter le voile, c'était
notamment,
ça
notamment. Alors, ce que La Lab, sur son site, a publié une sorte de question-réponse pour répondre aussi un peu à ces détracteurs et peut-être aussi pour se présenter. Et elle s'est définie comme une association pro-choix, c'est-à-dire pro-choix en matière d'IVG, mais pro-choix aussi en matière de voile. C'est-à-dire, elle pense que les femmes doivent avoir aussi bien le droit de ne pas porter le voile si elle ne veut pas le porter et de le porter si elle le désire aussi. Mmh. Donc c'est ça qui a été reproché à La Lab, notamment parce qu'en fait La Lab avait déposé une annonce sur le site du service civique pour recruter des services civiques, en fait, pour étoffer un peu son équipe. Et la polémique est partie de là. Certains ont jugé que le service civique ne devait pas bénéficier à des associations notamment qui critiquent la loi de 2004 qui interdit le port du voile dans les établissements scolaires.
D'accord,
c'est une association.
Et puis il y a eu pas mal d'accusations plus ou moins fantaisistes. On a expliqué que c'était une association islamiste, proche des frères musulmans. Enfin, il y a beaucoup de.
C'est un peu ce qu'on reprochait aussi au Parti des Indigènes de la République.
Oui, oui, oui. Oui, enfin, c'est. Ça me semble vraiment tiré par les cheveux pour ce qui concerne cette association. C'est une association féministe, c'est une association pro-choix qui se bat pour que les femmes aient le droit de choisir. Et ça me semble quand même assez éloigné de ce que proposent les intégristes musulmans ou les frères musulmans. Quoi.
D'accord. Donc tu n'as peut-être pas entendu le bon mot de Olivier. C'est une association à voile et à vapeur, a-t-il dit.
Voilà.
Alors, du coup, dans Hétéroclite de ce mois-ci, donc le numéro 125, sur quoi tu pourrais mettre un petit coup de projecteur, quoi, pour nos auditeurs ?
Eh bien, sur Olivier Rey, par exemple.
C'est ma fête.
Voilà.
Non, mais ça suffit, il est déjà invité dans l'émission, on va pas faire.
Alors, si je puis me permettre, je l'ai feuilleté rapidement, il y a quand même, je te viens pas en aide, mais il y a quand même le guide Sissi, qui est quand même le guide qui rassemble tout un tas d'événements culturels pendant toute la saison.
Voilà.
Et alors ça, il faut absolument l'avoir sous le coude, si j'ose dire.
Voilà. Le guide Sissi, donc c'est la 4e édition de ce guide, qu'on fait paraître en début de saison culturelle. Donc c'est un guide qui couvre toute la région Rhône-Alpes Auvergne même, non, et qui répertorie dans la saison culturelle 2017-2018 en Auvergne-Rhône-Alpes des spectacles qui traitent du genre, du féminisme et de l'homosexualité bien sûr. Donc il y a à peu près une centaine de spectacles, des festivals aussi, des événements culturels qui traitent de ces sujets. Et ça peut être aussi bien la Comédie de Clermont qu'à la Comédie de Saint-Étienne, à Bonlieu, à Annecy, à la Comédie de Valence, à Lyon évidemment, à la MC2 de Grenoble. Enfin, on essaye de couvrir tous les départements.
Tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes alors.
Voilà, c'est ça.
Et ça, le guide est paru déjà.
Voilà, en fait, le guide est inséré, c'est le cahier central du numéro 125. Hein. Donc, c'est un gros numéro.
D'accord. Ah oui, un numéro épais. Voilà. Et donc, il y a quelque chose sur Olivier, c'est ça ? C'est ce que j'ai compris ?
Ouais, ben, il y a un entretien avec Olivier.
D'accord.
De la mise en scène de.
On apprend des choses sur lui, on apprend des choses inédites.
Ouais. Il y a des scoops.
Il y a des dossiers qui sont sortis enfin.
C'est bon. Ça, ils m'ont travaillé au cœur.
En tout cas, j'entends. Vas-y, Romain.
Il y a eu beaucoup de. On a gardé beaucoup d'informations trop sensibles pour nous.
Bien. Bah, j'entends qu'il y a un peu d'ambiance quand même déjà là-bas, aux rotatives.
Bah oui, il y a déjà du monde, ouais.
Ouais.
C'est jusqu'à quelle heure ?
Bon, écoute, je sais pas. Nous, on est là jusqu'à minuit. Après,
on peut venir après. Alors, c'est bien.
Vous avez de la chance.
Parce que je crois qu'Olivier et son invité Johan avaient prévu de vous rejoindre après l'émission.
C'est où exactement ?
Alors, ils avaient gardé un peu d'alcool.
Romain, c'est où exactement les rotatives ?
67 rue de Marseille.
D'accord. Dans quel arrondissement ?
Dans le 7e.
Dans le 7e, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas.
Et le nom du lieu, c'est Simple Food ou Simple Food.
Simple Food. Quel accent, Gérald ! Voilà.
Donc,
on ne va pas partir en Angleterre cet été, c'est sûr.
En tout cas, merci Romain d'avoir accepté notre petite interview téléphonique. Je souhaite bonne fête pour les rotatives de ce soir. À moins que tu aies quelque chose à rajouter qui te tient à cœur.
Non, juste pour peut-être les auditeurs et auditrices qui voudraient venir à la prochaine.
Oui.
Elle se déroulera le 4 octobre au restaurant Chez Richard. Toujours dans le 7e.
C'est toujours des restos, je vois, Romain, tu choisis bien tes endroits.
Des fois, c'est des bars. Mais...
oui, je crois que vous aviez fait le L Bar un jour.
Une
rotative a eu lieu au L Bar. Ouais.
On a fait le Shabada Café, on a fait le Drôle de Zèbre et on a fait le IFS Bar aussi. Voilà.
Parfait.
Et là, c'est la 5e édition.
La cinquième rotative, donc. Pour la parution mensuelle du magazine Hétéroclite, qui est donc un mensuel qui paraît tous les premiers mercredis de chaque mois. Voilà.
Exactement.
Que tout le monde connaît bien, pourquoi le présenter encore, mais il faut le soutenir jusqu'au bout. En tout cas, merci Romain d'avoir accepté notre invitation pour parler à la radio une nouvelle fois.
Eh bien, merci.
Et à puis, oui, voilà. Aujourd'hui, on est nombreux autour de l'émission. Ça commence
chaleur. Oui. Voilà. On commence à avoir très chaud.
Voilà, ça a un aspect un peu sauna.
On va
s'habiller
un peu, d'ailleurs.
Voilà, ça ressemble un peu au sauna, maintenant.
Je suis la seule.
Ah bon, quand même.
Oui, c'est vrai. Maintenant, alors que Laurence...
Enfin, je m'inquiète pas, je crains pas grand-chose.
Merci Romain en tout cas, et puis à la prochaine, certainement pour le prochain numéro d'Hétéroclite. Et puis évidemment, si tu veux intervenir à l'émission ou m'interpeller sur quelque chose, n'hésite pas. Hein, si tu n'as pas envie de pousser un cri de détresse anti-macronien, par exemple, je dis ça comme ça.
Hein. Ne le tente pas, Gérald, ne le tente pas.
Bon, merci Romain en tout cas, et
à bientôt.
À très bientôt. Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Salut Romain.
Pluriel, 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 pluriel.
Bon, il est arrivé un petit peu comme les Fayot après le rôti, mais on l'a vu.
Qu'est-ce que c'est que cette expression de 1940
Mais
c'est pas possible.
Oui, mais moi, je suis un vieux.
Qu'est-ce que c'est ça?
Donc,
sans non, mais je tiens, excuse-moi, je te coupe, je tiens à souligner que Boris, il gère. Hein.
Ouais. Ah oui, à fond.
Il y a Bernard qui surveille. Ouais,
il manage. Hein,
là, quand il se cale dans son fauteuil, là.
Il fait pas rire. Hein.
Manabab. Hein.
Ouh là là. Ouais.
C'est vrai. C'est tout à fait vrai.
On enchaîne donc.
Voilà. Donc, Romain, il évoquait le film 120 battements par minute. Qui l'a vu en fait ? Moi, j'ai pas encore.
J'ai pas eu la chance encore.
Non. J'ai honte.
Personne ?
Moi, je l'ai vu.
Ah, Boris.
Oui,
heureusement, t'es là pour sauver le monde. Oui, alors.
Film magnifique. Oui. Et ce qui est fou quand même, c'est que. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, ACT UP a beaucoup été critiqué pour ses actions. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce film, c'est un peu un hommage et que finalement, ce film fait beaucoup plus consensus aujourd'hui que les actions d'hier. Et donc, c'est chouette parce qu'on voit aussi que leur lutte a payé et aujourd'hui, le rapport de force n'est plus du tout le même sur ces sujets-là. Et ça, voilà. Puis bien évidemment... le film est superbement monté, il y a des images incroyables. Donc voilà, moi j'invite tout le monde à aller voir ce film.
Moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai quelqu'un qui m'a fait un retour, qui m'a dit que la... en fait, en conclusion du film, il manquait le message d'espoir en fait. Il y a assez peu de messages d'espoir sur le combat contre le VIH, quoi.
Bah, disons que ce que je trouve moi intéressant sur le film, c'est qu'effectivement ça montre le combat et les difficultés. Moi, ça me l'a donné quand même un espoir parce que tout au long du film, on voit des gens en train de lutter, en train de se battre. Alors, avec certains, on sait, avec la fin qui est la mort pour un certain nombre d'entre eux. Mais quand même, avec cette idée que la lutte, ça a un sens et ça apporte. Et du coup, moi, sur aujourd'hui les luttes, sur notre génération, sur qu'est-ce qu'on pourrait aussi, nous, LGBT, apporter à un mouvement d'émancipation, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre et à tirer de ces luttes-là. Donc,
et le combat n'est pas terminé.
Moi, je l'ai vraiment vu. Alors, effectivement, c'est un film où il y a de l'espoir, il y a de la lutte, mais il y a aussi de la tristesse et de la difficulté, bien évidemment. Et je pense que les deux sont montrés.
Et ça invite peut-être aussi à une certaine forme de radicalité, ouais, de provocation dans la lutte et dans l'époque un peu...
Qui manque maintenant, on va dire, du moment.
Ce qui m'a gêné, moi j'ai pas vu le film, mais de toutes les critiques que j'ai lues, ou la façon dont les gens, les journalistes, ceux qui avaient vu le film parlaient du film, c'est qu'en effet, tu parlais d'Act Up à l'époque où ils sont faits, mais littéralement, mais massacrés, les militants, quoi. C'était des fous, c'était des fous furieux, c'était des inconscients, des irresponsables qui respectaient personne. Et maintenant, on a l'impression que d'un coup, c'est tellement génial tout ce qu'ils ont fait. Mais moi, ça m'agace un peu, ce genre de discours. Ça aurait été tellement plus simple d'accepter dès le début, de dire oui, il faut écouter ces gens. Ils ont un message important à nous dire, à faire passer. Honnêtement, il y a la plupart des gens qui l'auront craché dessus, quoi. Alors oui, c'était des actions extrêmes, mais bon, il y avait quand même des bonnes actions, il faut quand même dire ce qu'il y a, et c'est ce que tu dis. C'est leur extrémisme, entre guillemets, il y a une vingtaine d'années, qui donne aussi un peu le militantisme d'aujourd'hui. Et moi, je trouve ça un peu facile d'oublier qu'ils se sont fait, mais marcher dessus, quoi.
Ça montre effectivement le rapport de force, finalement, qu'ils sont arrivés à créer. Moi, je me rappelle, je crois que c'était lors d'un site d'action, alors je crois que c'était plutôt dans les années 90, soit le président d'Act Up ou un des militants qui, lors d'une émission en direct, a quitté le plateau en disant, alors je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais vous me faites chier, ou c'est quoi ce pays, ou...
C'était Christophe Martet.
Je me souviens plus, moi j'étais très très jeune, et je me souviens à l'époque que ça avait énormément fait polémique, des gens expliquaient que c'était pas comme ça qu'on devait s'exprimer à la télévision.
Oui. Donc,
ça n'apportait pas la cause, que ça la desservait, etc. Finalement, les mêmes arguments qu'il y avait au tout début des années 80. Mais ça montre le processus que finalement, si ces personnes-là, à un moment donné, n'avaient pas utilisé cette lutte-là, ils auraient peut-être jamais pu renverser la vapeur.
L'émission que j'évoque, c'était en présence d'ailleurs du ministre de la Santé de l'époque, c'était
Douste-Blazy. Oui. Mais je m'en souviens de cette émission, j'étais pas bien grande, et en effet, ils avaient interrompu l'émission. C'est des émissions qui servent à quelque chose, attention, je dis pas le contraire, mais qui restent quand même très consensuelles. Ils sont surtout faits pour apporter de l'argent, après on sait très bien que l'argent, il en faut de toute façon. Ils avaient interrompu l'émission, et ils avaient parlé notamment de tout. Enfin, ils n'avaient pas seulement parlé du VIH, ils avaient parlé de la cause homo en règle générale, ils avaient parlé du mariage homo. Déjà à l'époque, ils en avaient parlé en direct à la télé. Ils avaient foutu un bordel monstre pendant l'émission. Et du coup, en fait, après, les organisateurs de cette émission, je crois qu'ils avaient interrompu l'émission, elle n'était pas allée jusqu'à son terme. Et ils avaient en gros, après, accusé Act Up. Ah bah, s'il n'y a pas de site d'action à la télé l'année prochaine, c'est de la faute d'Act Up. C'est de la faute des militants qui sont trop extrêmes. Oui. C'est toujours un peu le même.
Parce qu'en fait, ils reprochaient à l'émission un côté édulcoré, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ça.
On parlait beaucoup des enfants, par exemple, etc., pour un peu faire l'envoyer dans les chaumières. Mais le but, c'était effectivement d'attirer le maximum de pognon aussi. Voilà. Et Christophe Martet, la personne avec qui il était, tous les deux, ils ont interrompu l'émission. Et après, ça lui est resté un peu collé à ses basques toute sa vie. Parce que, toute sa vie, il est encore en vie, heureusement d'ailleurs, Christophe Martet. Parce que, on lui a reproché justement d'avoir un peu sabordé l'action du site d'action. Quelqu'un voulait prendre
la parole ? Non, mais aujourd'hui, c'est pareil, dans les manifestations, dès qu'il y a des groupes un petit peu extrémistes, ils sont tout de suite critiqués de...
Oui, alors qu'en fait, l'action extrême, qu'on appelle extrême et radicale, elle est nécessaire parfois. Ouais, bah. On pense aux féministes du MLF, tout simplement, qui faisaient des trucs pas possibles dans les années 70, aux phares, au Front d'Action Homosexuelle Révolutionnaire, bon, déjà le nom. Et après, c'est vrai que ça booste souvent. Mmh. On a besoin de ça.
Mais ça fait peur, du coup.
Oui, mais c'est ça.
Mais ce qui est fou, c'est que même à l'intérieur de la communauté, ils ont énormément été critiqués.
Bien sûr.
Notamment lors des Gay Pride. Oui, mais qu'est-ce que vous venez nous emmerder, entre guillemets, avec votre sida, la Gay Pride où nous, on veut faire la fête, etc. D'ailleurs, c'est un petit peu évoqué dans le film à un moment donné, quand ils vont sur un lieu de drague. Où finalement on leur dit mais arrêtez de nous embêter, nous on n'est pas là pour entendre qu'il y a des maladies, voilà. Donc même à l'intérieur de la communauté, c'était pour eux c'était le double, triple, quadruple combat qu'ils devaient mener à la fois à l'intérieur et puis aussi auprès de la population.
Il y avait d'ailleurs aussi à l'époque des boîtes de nuit gays qui refusaient avec des backrooms, etc., par exemple, ou des boîtes de nuit tout simplement, qui refusaient de recevoir les militants d'ACT UP, qui les foutaient dehors. Les militants d'ACT UP, ils venaient distribuer des préservatifs, par exemple, parce que ça effrayait la clientèle, soi-disant.
Il y a une dimension politique très forte et c'est vraiment, je crois que c'est très clairement pas des PD de droite, quoi, en gros, chez ACT UP.
Mais il y en a qui disent que ça n'existe pas, les PD de droite. Que c'est comme une dinde qui aimerait Noël, quoi, un PD de droite.
Alors nous avons une liste.
Qu'est-ce qu'il a avec la bouffe ce soir?
Je sais pas. C'est à cause de Romain.
Il a faim.
C'est Romain, exactement. Puis Romain, avec son buffet, il m'a mis l'eau à la bouche. Donc Jeffrey Jordan, que nous avons entendu depuis le début de l'émission. Et tu es avec nous. Et alors j'aimerais bien que tu nous parles de ton actualité parce qu'elle est riche et diversifiée.
Absolument.
Alors, je voudrais que tu nous dises un petit peu ce qui se passe en ce moment pour toi.
Ben écoutez, c'est plutôt sympa puisque je repars sur les routes à partir du 15 septembre avec une très belle tournée avec trois spectacles, mes deux premiers seuls en scène et puis un spectacle en trio avec mes deux autres camarades. Et voilà, je fais un peu le tour de la France, donc ça va être chouette. Et je serai à Lyon donc décembre-janvier en trio, donc voilà, à nouveau avec ce trio qui était un simple projet éphémère et finalement on le vend tellement qu'on continue de le jouer, donc c'est chouette. Donc décembre-janvier au Complexe du Rire. Et puis voilà, je projette aussi de m'installer sur Paris, faire du développement et que ça devienne un peu plus sérieux.
D'accord.
Donc c'est chouette. Voilà.
Et t'as peut-être des dates prévues à Paris, c'est pas encore sûr pour l'instant?
Voilà, pour l'instant c'est en projet, j'avance pas les dates puisqu'elles sont... Je les cite pas parce que voilà, c'est pour l'instant c'est pas
et là
possible.
Dans l'immédiat, qu'est-ce que tu pourrais nous annoncer
alors là, les 15 et 16 septembre à Annecy.
Oui.
Les 22 et 20, 15 et 16, je vais reprendre mon calendrier, hein, je l'avais pas préparé, tu vois, je suis bien organisé. Voilà, donc les 15 et 16 septembre à Vienne au théâtre Ailleurs, 22 et 23 septembre à Annecy, donc ça c'est plutôt dans le coin. Et puis après, plutôt dans la région, ou du moins pas loin, il y aura Chalon-sur-Saône les 20 et 21 octobre. Voilà, après Clermont-Ferrand le 31 décembre. Voilà. Après, c'est pas vraiment dans la région, donc il suffit d'aller voir sur mon site, par contre.
Attends, donc ça veut dire que y a des chances qu'après tu vives plus à Lyon?
Si, je continuerai de vivre à Lyon, mais je jouerai plus à Lyon.
Ah bah si, pourquoi
je n'ai, dit que c'était définitif, mais pour l'instant je n'ai plus de date à Lyon.
Pourquoi ne pas venir jouer à Lyon?
Monsieur préfère Paris?
Mais non, pas du tout. Non, pour l'instant je ne dis pas, je ne vais pas jouer encore. Mais non, mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de date, donc je ne vais pas. Voilà.
Oui.
Mais évidemment j'adore Lyon, puis j'ai joué très longtemps aussi. Hein, ouais. Ça fait 6 ans que je joue à Lyon, donc à un moment il faut aller voir.
Ah bah ça, on serait très triste. Bon, même si on peut être binational, hein, je suis vivante. J'espère d'aller voir un jour à Paris, mais évidemment. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Alors, il faudrait quand même rappeler.
Binational, c'est le
rien.
Ça existe?
Parigo-lyonnais. Parigo de cœur, parce que mon petit ami est allé à Paris, voilà, c'est pour ça.
On l'embrasse.
Julou, c'était le Zéco. Donc, du coup, Geoffrey, parce qu'il faudrait préciser quand même que tu as plusieurs cordes à ton violon. C'est le cas
oui,
de dire,
voilà.
C'est un violon dans un de tes spectacles, d'ailleurs. C'est
voilà, dans le premier spectacle, je raconte mon histoire d'amour avec mon violon,
voilà.
Jean-Jacques. Et puis, dans le deuxième spectacle, en fait, c'est complètement différent. Ça s'appelle Pourquoi les mouches.
Voilà.
C'est une sorte de conférence absurde sur des questions qu'on se pose dans la vie. Voilà, j'y réponds pas forcément d'ailleurs, mais c'est ça qui est intéressant. Donc c'est une espèce de monologue plus ou moins scientifique aussi à certains moments, sociologique et voilà, c'est une espèce de délire pendant une heure et quart d'un maître de conférence qui qui se posent des questions. Voilà.
Et le spectacle que tu joues le plus, en fait, tu as parlé aussi du trio, donc qui sera au Complexe du Rire en décembre et en janvier.
Oui.
Le spectacle que tu joues le plus, c'est ton premier spectacle.
Oui.
C'est Jeffrey Jordan Saffold.
Alors, il a changé de titre. D'accord. Voilà, on va pas brouiller les pistes, mais voilà, ça s'appelle Accord Parfait maintenant.
D'accord.
Et okay. Parce que j'ai changé un peu le discours du spectacle. Avant, je parlais vraiment de l'homosexualité clairement, et puis j'ai décidé en fait de, il y avait quelques passages un peu bruts de décoffrage et la critique était bonne, mais il y avait certaines critiques assez.
Monsieur sans bourgeoise.
Non mais voilà, j'ai voulu. Et puis c'était un peu la nouvelle version, un peu de la maturité, voyez-vous. Un peu plus de poésie, un peu plus de filtre. Mais je me fais harakiri sur certains sketchs que j'aimais beaucoup jouer et que je suis obligé d'enlever sur cette nouvelle version. Mais voilà, c'est un spectacle qui est en constante évolution. À chaque fois que je viens ici à Radio Pluriel expliquer un peu où en est le spectacle, c'est vrai, c'est ça. Et c'est pour toucher aussi un autre public.
L'intérêt, c'est qu'on peut voir le même spectacle
plusieurs fois,
voilà. À quelques années d'intervalle, on voit quelque chose de différent.
C'est ça.
Et le pitch du trio, de la pièce du trio.
Alors en fait, ce sont trois mecs qui se rencontrent à un 31 décembre. On est tout de suite après minuit, il y a eu les 12 coups ont retenti, donc on est le 1er janvier en fait, et c'est en pleine campagne, une campagne perdue, et en fait ces trois personnes ne se connaissent pas, et ils s'ennuient littéralement, ils cherchent à partir de cette soirée. Et comment ils vont réussir à s'échapper en douce, c'est tout l'intérêt du spectacle. Voilà, alors c'est un peu potache, c'est très populaire, mais voilà, nous, ça nous permet aussi à nous, en tant qu'humoristes, de faire la promotion de nos spectacles respectifs. Voilà, c'était une sorte de plateau d'artistes déguisés. On ne voulait pas faire un plateau. Et voici maintenant, truc. C'était débile, donc on s'est dit qu'on allait écrire une pièce, articuler une pièce autour de ça. D'accord. On a écrite avec du saucisson et des bières. Donc c'est pour ça que c'est très...
Avant, c'était l'absinthe, maintenant c'est le saucisson et les bières.
C'est ça. C'est le Bordeaux.
Bien, alors Jeffrey, je sais que tu n'es pas venu les mains vides puisque tu veux nous parler, mais on va d'abord faire une petite pause musicale. Ah, mettez la musique que vous voulez.
On se retrouvera après, c'est ça ?
Et après, on se retrouve après.
C'est quoi qu'on va écouter ?
Et on reviendra sur Olivier. C'est Grooves in the Heart, Delight.
Singing groove is in the heart. Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Alors, Jeffrey...
c'est génial, fait, ce petit jingle-là.
Oui, mais ça fait comme une chute à la fin, l'impression que quelqu'un était tombé, non?
Mais j'ai pas entendu, moi.
Ouais, Bernard est toujours là, donc ça va.
Oui, oui, on n'a pas signalé Bernard, qu'on a un peu évoqué, tu as un peu évoqué Bernard, mais il est là aussi. Il est là, au-dessus de Boris.
Bien sûr.
Voilà, en train de surveiller.
Il supervise.
Bernardo. Ouais.
Jeffrey, toi, tu nous as présenté...
On a toujours besoin des vieux.
On ne te le fait pas dire, mon bon Bernard.
C'est pour ça qu'on garde Gérald, d'ailleurs. On ne remplace pas.
Vous verrez un jour, vous serez vieux.
Donc, après, vous... pluriel gay, EHPAD gay.
EHPAD.
Mais oui, pourquoi pas, tiens.
Ah bah ouais.
Bah oui.
Donc, tu nous as préparé une chronique qui parle d'alcool. Et on reste un peu dans le feeling de l'émission, finalement, dans le fil conducteur. On parle de bouffe, d'alcool.
Voilà, on parle de voilà, de...
Drunk pay. C'est quoi, drunk pay?
Drunk pay, bah écoute, alors. D'abord, Gérald, il faut que je t'explique. Figure-toi qu'hier, j'étais à la terrasse du Boston, tu sais, place des Terreaux à Lyon. J'ai fait un apéro super sympa avec des potes. Alors, il y avait tout. Il y avait de la bonne musique, du soleil, la terrasse était bondée. Il y avait même un mec déguisé en licorne. Hein. C'est pour te dire l'ambiance qu'il a foutue. Ambiance de merde, hein, évidemment. Et puis alors, plus tard dans la soirée, vers à peu près 10 ou 11 litres de bière, je commençais à voir un peu flou. Hein. La seule chose que je voyais très clairement, c'était le nombre de tickets de carte bleue qui s'accumulaient dans ma poche. Il y en avait tellement qu'en faisant une boule avec, on aurait pu faire un foot. Et là, mon pote Tristan se tourne vers moi et me dit « Oui, mais comment ça ?» Parce que quand on est bourré, on parle comme ça. Hein. « Comment ça? T'as pas l'appli trop tendance du moment? What the fuck? Je vais me resservir un rhum coca. » Bon. Alors je dis, bah non, je sais pas, j'avais autant bu que lui, hein. Je sais pas, c'est quoi cette appli trop tendance du moment, what the fuck? Alors il me dit, bah écoute, ça s'appelle Drunk Pay. Ça t'empêche de trop dépenser quand t'es bourré. Alors, comme nous on n'est pas les derniers pour lever le coude, faut croire qu'ils ont créé l'appli pour nous, hein. Si pour nous, hein, pour ceux qui boivent tellement qu'ils se sentent obligés d'éponger en se remplissant le ventre de bouffe pour pouvoir recommencer à boire derrière, hein, ceux que t'as envie de fuir parce qu'ils te gonflent tellement ils parlent, qui chopent une grande gueule après 8 shooters, puis qui aiment tout le monde au bout de 7 vodka Red Bull, hein, que l'alcool rend poète, qui observent la soirée comme un chef-d'œuvre pictural et qui se mettent à pleurer pour rien, hein, ceux que l'alcool rend séducteur, qui deviennent très très lourds au fur et à mesure que la soirée avance, mais qui finissent leur nuit forcément seuls. Hein, qui font semblant d'aller bien alors qu'ils ont 4 grammes à chaque œil, puis qui sont tellement déchirés qu'ils s'endorment n'importe où et qui réagissent même plus quand on leur dessine des petits zizi au marqueur sur la joue. Hein, c'est arrivé souvent, te rappelle Laurence. En fait, l'application Drunk Pay s'adresse à nous tous, hein, individus qui se croient riches après avoir tombé une bouteille de rosé chacun. Sauf que moi, je l'ai téléchargé leur truc. Mais c'est complètement con comme système. Parce que comment ça marche? D'abord, avant de commencer à boire, ils te demandent d'entrer la somme limite que tu veux te fixer dans la soirée. Ah, c'est ridicule, parce que moi, dans ce cas-là, je me fixe une limite à 2000 boules. Hein, oui, casse-toi Tristan avec ton rhum coca, fais péter le champagne. Oui, non, t'inquiète pas pour ton Uber, on rentre en limousine. Oui, parce que quand on est bourré, en plus d'être riche, on est célèbre. Alors au bout d'un moment, l'application Drunk Pay, elle sait que tu es rond. Oui, elle le sait parce qu'ils te vendent avec l'application un éthylotest connecté à ton téléphone portable ou un bracelet avec des capteurs. Bon, alors moi, l'éthylotest, quand j'ai trop bu, c'est où je le perds, où je le retrouve pas. Et puis un bracelet qui arrive à savoir quand t'es bourré, moi j'y crois pas trop. C'est surtout que c'est cher d'acheter l'éthylotest ou le bracelet qui va avec. Ah bah attends, ça coûte au moins... 4 ou 5 vodka pommes, hein, bah oui, c'est ça le problème. Alors là où ils sont bien mignons sur Drunk Pay, c'est que si tu commences à dépenser plus que la limite que tu t'es fixée ou que tu es trop bourré, ils bloquent toutes tes transactions bancaires pendant 12 heures. 12 heures, c'est le temps de décuver. Bah oui, mais c'est débile parce que généralement quand on se la colle, c'est avec des potes. Eh oui, Tristan, tu peux me payer encore un verre? Bah mon compte est bloqué. Ah merde, t'as téléchargé l'appli aussi? Bon bah alors la prochaine fois on fera une soirée à boire du thé et à jouer aux petits chevaux. Hein, ce sera moins frustrant, oui, car quand tu prends une méchante cuite, tu crois que tu ne recommenceras plus jamais. Alors évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais faut dire que l'application est facilement détournable. Ah bah moi quand je suis rentré chez moi hier soir très éméché et très éméché, je me suis commandé sur internet 132 plumes d'autruche pour essayer de m'envoler du 6ème étage, 3 pots de peinture jaune fluo pour repeindre les sièges de ma bagnole et une parure de drap Hello Kitty. Bah, je vous inviterai à boire un verre à la maison, venez déguisé, hein, mais pas en licorne.
Pluriel gay.
T'es sûr que c'était pas une vraie licorne qui était là?
Peut-être, mais tu sais, à un certain moment de la soirée, on sait plus. C'est ça le problème.
Cette appli, elle existe donc.
Oui, elle existe vraiment. Mmh. Oui. Mais d'ailleurs, moi, je me suis dit, c'est tellement absurde ce truc. C'est comme s'ils faisaient une application qui calcule ton niveau d'odeur, tu sais. Non, mais tu sais, humidité, transpiration, haleine, et selon ton niveau quotidien, tu serais autorisé ou non à prendre les transports en commun, hein, ah, oui. Ou les ascenseurs. Voilà, on te dirait non, faut pas aller dans le métro, par exemple. Ça ferait du bien à tout le monde, je pense, ce genre d'application.
Très bien. Donc, je me tourne à présent vers Olivier et vers Joanne. Donc, Olivier, tu es venu avec Joanne. Tu vas présenter ton compagnon, donc.
Alors, Joanne Boutin, qui est comédien, il sort du Conservatoire de Lyon, tu me corriges si je me trompe, qui a beaucoup joué au Lavoir, qui est un excellent comédien, évidemment, et qui joue le rôle de Garcin dans Huis Clos, et qui, avec le jeune maître, vont un petit peu... Enfin, je vais un peu passer le relais au Lavoir, du coup, à ses deux compères, pour m'occuper un petit peu d'autres choses.
Alors...
De moi.
Oui, c'est déjà bien. Il y a beaucoup de boulot. Donc, du coup, en fait, bon, tu as évoqué des choses là, comme ça, vite fait, Huis Clos, le Lavoir public. Ouais. Moi, j'associe Olivier au Lavoir public, évidemment.
Bien sûr. Non, mais je n'en vais pas non plus.
Le lieu alternatif culturel des pentes de la Croix-Rousse, qu'on connaît, que tout le monde connaît bien. Tu es souvent venu à l'émission parler. Oui. Voilà. Et mais là, tu dis que tu t'éloignes un petit peu de la
poule. Non,
non. Bah, ah bon, alors, casse son stylo, dites-moi.
Non, pas du tout. C'est l'angoisse. T'as envie de l'avoir. Je ne peux pas possible. Je ne peux pas vivre sans l'avoir. Ma vie a changé avec le Lavoir, ça, c'est vrai. Non, mais l'idée, ça fait maintenant. On va fêter les 6 ans du Lavoir en février. C'est une super aventure. Mais je pense que pour n'importe quel lieu culturel, en fait, un metteur en scène que j'aime bien, un metteur en scène assez connu, Peter Brook, a écrit Le diable, c'est l'ennui. Et je crois qu'effectivement, l'ennui ou la routine pour un lieu culturel, c'est effrayant. C'est terrible. Donc, l'idée, c'est au bout de 6 ans de m'occuper un peu d'autres projets parce qu'il y en a d'autres aussi. Puis il y a plein de choses qui débordent. La marmite du Lavoir déborde en fait. Donc, on ne peut plus s'occuper de tout ça à la fois. Et donc, c'est de se regrouper, d'inventer comment fonctionner à plusieurs pour que je puisse m'occuper et de mise en scène et de projets qui vont avoir lieu ailleurs. Mais j'en parlerai tout à l'heure.
D'accord.
Donc, mais je reste dans la famille du Lavoir. Enfin, je n'abandonne pas mon bébé.
Alors, en ce qui concerne la mise en scène, donc tu as évoqué Huis Clos.
Absolument.
Alors, tu t'attaques à Huis Clos.
Eh bien, oui, je m'attache à Huis Clos de Sartre. Alors, Huis Clos, c'est un petit peu le tube de Jean-Paul Sartre. C'est une pièce assez courte, dont tout le monde, je pense, a un petit peu entendu parler, mais on la connaît pas forcément très bien, Huis Clos. C'est évidemment L'Enfer, c'est les autres, qui est la phrase de Huis Clos. Et c'est ce trio, Garcin, Inès et Estelle, qui sont regroupés en enfer. Au tout départ, ce qui est assez rigolo, c'est que Sartre raconte qu'il a écrit cette pièce parce que 3 de ses amis acteurs lui ont demandé d'écrire une pièce pour eux. Et qui s'est dit, si jamais j'en fais sortir une scène, il va penser que la scène qu'il joue est plus intéressante quand il est pas là que quand il est là. Donc, pour être tranquille avec mes 3 amis, je vais écrire une pièce où ils sont tous les 3 tout le temps sur scène. Et où les ranger ensemble sans qu'ils puissent sortir, c'est bien en enfer. Donc, Sartre a écrit ça, et il s'avère que ses amis n'ont jamais joué la pièce, ça c'est pas très grave, et que ce sont 2 acteurs qui ont créé la pièce. Et c'est une pièce assez... C'est aussi une façon de redécouvrir Huis Clos. Le pitch, il est assez simple. C'est 3 figures, 3 personnages assez typés, on va dire. Il y a Garcin, qui est une sorte d'homme de lettres, publiciste, un peu homme de com' à l'époque. Ce sera un peu un Frédéric Bédé, en fait, réuni avec une lesbienne un peu revendicatrice, enfin un peu militante, employée des postes, un peu syndicaliste, on va dire, qui est Inès, qui sera un peu une sorte de dépente, de figure comme ça, un peu rock'n'roll, militante. Et puis, au milieu, débarque une petite poulette qui s'appelle Estelle, qui est une sorte de Paris Hilton, qui alors elle a absolument rien à foutre de tout ça, et c'est ces 3 personnes qui ne peuvent d'emblée pas se supporter les uns avec les autres parce qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui vont devoir passer l'éternité tous les 3 ensemble, et c'est forcément tout de suite, ça part un peu en couille si j'ose dire, et c'est le cas d'ailleurs, il y a la question du désir, bref, il y a plein de choses qui arrivent avec Huis Clos, et c'est une pièce extrêmement drôle, je trouve, et on joue un peu ça souvent avec une sorte d'angoisse existentielle, c'est Huis Clos, donc on réfléchit à ce qu'on dit, attention, machin, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus concret que ça, c'est beaucoup plus bête que ça, c'est juste 3 personnes qui sont coincées toutes les 3 ensemble dans une salle, elles ne peuvent pas en sortir, et forcément, il va y avoir du désir, il va y avoir du tuy, il va y avoir de la haine, il va y avoir tout ça, il va y avoir de l'envie, et forcément, ça fait du très très bon théâtre à jouer. Et c'est vraiment écrit comme une comédie, c'est des répliques qui font bin, 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 et du coup, je trouve qu'on rigole beaucoup avec Huis Clos, et je crois que les acteurs aussi, dont je suis avec Joanne, qui joue Garcin. Et alors, pour la petite histoire, pour finir le topo de présentation, mais après, il peut aussi en parler mieux, aussi bien que moi. Du coup, on a ainsi transposé, parce qu'à l'époque de Sartre, forcément, il situe ça dans un salon bourgeois, donc c'est un peu le salon de l'époque.
La pièce a été écrite
en 43. C'est juste à la fin de la guerre, en 43. Ouais. Écrite en 43, présentée, je crois, en 45, un truc comme ça. Mais il l'écrit à la fin de la guerre, enfin, pendant la guerre. Et lui, il situe ça dans le, on va dire, un peu le salon Roche-Beaubois de l'époque, c'est le standard de l'époque, c'est le salon du Second Empire, donc voilà, il tasse des gens là-dedans. Mais sauf que nous, on a un peu transposé ça. ça. Et l'idée qu'il soit enfermé dans un lieu qui en plus ressemble un peu au lavoir, c'est une boîte de nuit, c'est une boîte à after, et ces trois personnes sont coincées dans une boîte à after avec une soirée qui n'en finit jamais de finir, et ils ne peuvent pas sortir de
donc
cette boîte.
Donc tu as recontextualisé en fait
voilà.
Le texte. D'accord.
Exactement. Et ils se retrouvent tous les trois là-dedans, malgré eux, ils n'ont jamais choisi de venir à cette soirée, on les oblige à venir là en fait.
Voilà, en fait, on pourrait dire, on ne va pas spoiler, mais normalement, la pièce, elle est spoilée depuis longtemps, puisque depuis 70 ans qu'on la
voilà.
Connaît.
Puis on ne se libère pas à la fin, puis ils sont déjà morts. Donc, voilà. De toute façon, ça sert à rien.
Parce que le but, à la fin, on apprend que, en fait, ces trois personnes qui sont réunies ensemble sont mortes, en fait. Elles discutent
entre elles. On le sait même d'emblée, parce que du coup, ils sont en enfer, ça s'est dit très clairement. Il y a le valet, le garçon qui les accueille.
Oui, parce qu'il y a un quatrième personnage qui
que j'interprète. C'est un peu le metteur en scène qui a gagné ce jeu-là, dont ce sera moi qui jouerai le garçon, qui à l'époque, dans la création, s'appelait Chauffard. C'est le valet des enfers, j'aime bien ce nom, s'appelait Chauffard, c'est génial. Et du coup, le valet des enfers accueille ces gens, ils savent très clairement qu'ils sont en enfer. Par contre, pendant toute la pièce, il va se passer plein de choses, ils vont se désirer, ils vont se détester, et ça va aller jusqu'à l'envie de tuer l'autre, mais ils ne peuvent même pas le faire,
parce qu'ils sont cons, ils sont déjà morts, effectivement.
Mmh. Donc on ne peut même pas tuer l'autre, donc c'est vraiment insupportable.
Et donc, Johan, toi, tu joues le rôle de Garcin.
Garcin, ouais.
Et alors, c'est bien de jouer Jean-Paul Sartre, huis clos, Lavoir.
Eh bien, en tout cas, c'est une sacrée expérience, parce que c'est quand même, mine de rien, un gros morceau. Et c'est trois gros rôles. Mais en effet, on a une idée comme ça, un peu toute faite sur Sartre. Puis voilà, ce qu'on a vu un peu à l'école, tout ça. Et en fait, non, c'est vrai que c'est vraiment assez jouissif à prendre, à interpréter. Parce que oui, en effet, il y a ce côté de tac au tac. Ouais, comme une espèce de vaudeville, quoi. Comme un fédo, quoi. Enfin, c'est un peu le même type de dynamique, donc c'est assez agréable. Ouais.
Dans notre écriture, il y a très très peu de monologues. En fait, je crois qu'il y en a un ou deux, mais ils sont même pas très très longs. C'est vraiment des reptiles très courtes qui fusent, et c'est de l'angulade. Enfin,
ouais.
Donc toi, en fait, Johan, huis clos, en fait, tu l'as déjà joué?
Non.
Non, jamais. D'accord.
Non.
Donc t'as jamais eu l'occasion de la jouer, comment dire, d'une manière un peu plus classique.
Ah non, ouais, non.
Même
ouais.
Au conservatoire, vous l'aviez pas travaillé.
Non.
C'est ouais, fou non, quand c'est... même.
Deux.
Bah c'est fou qu'en fait même au conservatoire que vous n'ayez pas travaillé dessus. Enfin, c'est quand même un...
Oui, parce que c'est presque un classique.
Bah,
oui,
ouais.
Mais après le conservatoire de Lyon est quand même plutôt axé aussi sur du théâtre contemporain. Et après Sartre en soi, enfin je pense que chez les théâtreux, il est pas considéré. Enfin on voit pas trop cette pièce en fait dans le répertoire théâtral. D'accord. Je pense qu'on l'imagine pas énormément en fait.
Complètement.
C'est assez surprenant en fait.
Parce que Sartre, c'est le philosophe. C'est
oui, voilà. On a cette image-là. C'est pas Shakespeare. C'est pas. Enfin.
Et alors, pour la petite histoire aussi, il y a un metteur en scène à Lyon qui a été directeur du théâtre du Point du Jour pendant 15 ans, Michel Rastine, qui l'a monté et qui a une mise en scène qui a fait date. Et c'est vrai, c'est un peu, comment dire, pas étouffé, mais comment dire, enfin, en tout cas, dans la généalogie, il s'avère aussi que j'ai travaillé avec ce metteur en scène pendant 15 ans. Donc, c'est aussi un clin d'œil à Michel Rastine avec qui j'ai travaillé et sur une façon complètement différente de s'attaquer à huis clos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à part la mise en scène de Rastine, qui a été mémorable, il n'y a pas tant de mise en scène que ça de huis clos au théâtre, pas si souvent que ça. C'est assez rare.
Et pourtant, c'est vrai que c'est connu quand même, huis clos. C'est une pièce qui est très connue.
On connaît le titre, on connaît l'enfer sur les autres, mais c'est
ça. Voilà, c'est la phrase qui surgit tout de suite.
Après, je pense que je suis très content aussi que Johan et les autres acteurs n'aient pas travaillé sur huis clos avant. Ça permet d'arriver plus vierge, plus neutre par rapport au texte. Et ils l'auraient déjà joué avant. Je pense qu'il y aurait forcément quelque part cette expérience-là qui serait en tête. Là, ça permet d'être vraiment neuf. Et c'est un peu comme si le premier jour de répétition, on découvrait le texte ensemble. Et tiens, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qu'on va en faire. Et après, je pense que c'est assez plaisant pour un acteur de jouer un gros connard quand même.
un gros macho.
C'est ça. C'est d'un machisme, parce qu'il y a quand même quelques répliques. Sartre, c'est assez macho comme pièce. Quand même. Les filles, elles en prennent un peu. C'est rigolo. Enfin, aujourd'hui, ça nous fait rire. Je pense qu'à l'époque aussi. Mais je sais plus. On a vu quoi aujourd'hui sur les hommes
Après, je sais pas comment c'est vrai. À l'époque, ça devait être vu. Enfin, ça devait être en tout cas plus quotidien, peut-être. Enfin, ce genre de.
Parce que forcément, les femmes parlent beaucoup dans la pièce, donc du coup, il leur dit. Mais,
forcément, voilà, les femmes parlent beaucoup.
Est-ce que vous pouvez pas vous taire? Et puis, il finit par dire.
Les hommes savent se taire au moins. Si on m'avait logé avec des hommes, les hommes savent se taire au moins.
On peut pas tout demander.
On peut pas tout demander.
Bon, en même temps, ça peut être aussi une façon de dénoncer justement le discours machiste. Bien sûr. Ça dépend comment c'est
fait. Oui, aujourd'hui, on le raconte nous comme ça. Mmh. Mais c'est une pièce là très très drôle et effectivement, l'enfer c'est les autres. Ce que ça raconte aussi, c'est des personnages qui, comme ils sont, la pièce est très très bien construite. C'est une pièce qui est très courte. Hein, la lecture sur 50 minutes. Je pense que le spectacle va faire 1h15, quelque chose comme ça, 1h20. Les scènes s'enchaînent très très vite. Et c'est des personnages qui ne savent, enfin, ils savent très bien pourquoi ils sont là, mais ils ne veulent pas le dire. Donc pendant toute une partie de la pièce, ils vont se mentir les uns aux autres, s'inventant des histoires. Mais moi, je suis là pour telle ou telle raison. En fait, j'ai rien fait. Estelle, qui est très drôle, dit, mais moi, je me demande si c'est pas le hasard. Si je suis là, en fait, je pense qu'ils se sont trompés. En fait, ils m'ont envoyé là, mais en fait, c'est pas, ils se sont trompés. Et au final, ça raconte quand même que l'homme, ou enfin la femme, enfin l'homme avec un grand H, enfin l'humanité, les individus existent à travers leurs actes et non pas à travers leurs paroles. Et c'est les actes qui font ce qu'on est et non pas forcément ce qu'on va dire. On a beau tenir les paroles les plus formidables, si on fait par derrière des actes un peu, enfin comment dire, mauvais. Voilà. Mmh. En gros, c'est ça. Mais en plus, c'est vraiment une vraie matière à jouer et la pièce est très simple à comprendre. C'est pas non plus d'une fille. Enfin, c'est pas des pièces à thèse comme ça, sera pu en écrire les mouches. Enfin, bref, des choses moins connues, mais où c'est vraiment, je trouve, assez bavard, assez. Il s'en parle dans des théories philosophiques. Là, c'est vraiment de la matière à jouer et il y a une dimension philosophique, mais qui est assez. Enfin, c'est pas si. Enfin, à jouer, j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça en tout cas.
Et du coup, donc, l'ambiance est un peu boîte de nuit, c'est ça?
Boîte de nuit,
il y aura de la musique,
bien sûr, enfin pas sonore. Tout le temps, mais il y a de la musique par moment, puisque dans cet enfer, par moment-là, l'enfer se remet en marche, donc la musique redémarre, les personnages doivent supporter tout ça, et ils doivent vivre avec ça. Donc, et, alors par contre, c'est aussi une boîte after, mais attention, comme c'est l'enfer où il n'y a plus rien, c'est-à-dire que les bouteilles sont vides, la pompe à bière est débranchée, et les paquets de cigarettes sont vides, et il n'y a plus de pochons, il n'y a plus rien. Donc du coup, c'est quand même aussi, on est dans une boîte de nuit en after, mais on n'a plus rien. Et donc ça interroge aussi la notion de manque, et ça participe de l'énervement des personnages qui, à plusieurs moments, vont devoir aller chercher, ne serait-ce qu'un verre à boire, et il n'y a plus rien. Donc c'est une boîte de nuit, mais après. Tu ne fermerais jamais.
D'accord, donc tu as utilisé pour la mise en scène la disposition des lieux du lavoir.
Complètement, ça joue sur le bassin, il y a les fauteuils, les canapés, c'est une sorte de petite boîte. Mais ce qui est intéressant aussi dans le projet, c'est que d'une part, ça correspond bien à ce qu'est aussi le lavoir, un lieu culturel et un lieu de fête avec du clubbing, donc ça répond bien à la nature du lieu, on va dire, au départ. Mais l'idée, c'était aussi de créer la pièce et qu'elle ne soit pas prisonnière du lavoir, puisque on a forcément envie d'aller la jouer ailleurs. Et je pense que c'est une pièce qui peut se jouer aussi dans des vraies boîtes de nuit, avant le Saouf, par exemple. Donc ça ne joue pas sur un plateau théâtral traditionnel, classique, dans un rapport scène-salle. Mais par contre, tel qu'on l'a travaillé, la pièce peut très bien quitter le lavoir et se jouer dans une boîte classique, on va dire. Enfin, classique, dans une boîte.
Donc actuellement, c'est les répètes.
Mmh. Ouais.
Et ça sera prêt pour
Pour le lundi, pas celui qui vient, celui d'après.
Ah oui, 18h22,
c'est imminent. Hein.
Ouais, on est presque au bout, enfin, ça avance bien. Et ça joue pour la première série du 18 au 22 septembre, il y aura une deuxième série en octobre, du coup.
Et les comédiennes qui t'accompagnent, Joanne, sur scène?
Alors, donc, Pauline Drac, qui est de ma promo, qui sort aussi du conservatoire.
Qui joue Estelle.
Qui joue la poulette. et du coup, Marie Sergent, qui est une proche du lavoir.
Qu'on connaît aussi sous le pseudonyme de Mademoiselle Charby. Elle est comédienne et DJ. Et donc, là, en l'occurrence, elle est comédienne. Elle ne passe pas de disque.
Non.
Le mari, effectivement, qui joue, elle, du coup, Inès. La syndicat, enfin, la revanche, je ne sais pas comment on dit,
bref. La Virginie Despentes, quoi.
Voilà, c'est ça.
Mais du coup, c'est chouette parce que c'est. Enfin, à chaque fois qu'on fait un projet, c'est une nouvelle manière d'être dirigé, de tout ça. Donc c'est. Et puis, avec Pauline, c'est agréable parce qu'on sort du conse, donc c'est aussi. C'est le début de l'aventure et tout, donc c'est chouette.
On c'est pas bien de dire des choses que les auditeurs ne savent pas forcément, mais il s'avère que je pense que Joanne et Pauline sont assez proches, donc pour les scènes de cul, c'est assez pratique.
Ça veut dire qu'il y a du live, c'est ça?
On ne peut rien
savoir.
Parce
que du tout, l'idée, c'est aussi, j'essaye constamment avec les acteurs, tous les trois, de les sortir constamment de la psychologie, de la philosophie, vraiment dans du concret, dans du corps. Donc il y a de la chair, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a du sexe, il y a de la transpiration, il y a des choses comme ça, et du coup, voilà, je suis vraiment sur le concret de la pièce et jamais ne s'embarquer dans une idée ou dans quelque chose de trop psychologique.
Psychologique.
Donc c'est tout le temps très, très concret. Il y a aussi, puis c'est comment est-ce que les uns sont à tour de rôle la proie des autres, en fait. Comment est-ce que, comme ils sont trois, deux vont s'allier pour avoir la peau du troisième. Et comment est-ce que les alliances évoluent au fur et à mesure de la pièce. Donc c'est vraiment un panier de crabes. Et ça, on pense aussi très clairement avec, entre Inès et Garcin qui s'allie contre la poulette. C'est très clairement Valmont et Merteuil, enfin, les liaisons dangereuses. Voilà. Il y a tout ça aussi autour qui participe de l'univers. Donc c'est beaucoup plus concret, drôle et jouissif, on va dire, que l'image qu'on peut avoir comme ça, un petit peu poussiéreuse peut-être de huis clos. Et puis c'est très drôle.
Alors tu vois Jeffrey, il est pas parti en live. Jeffrey.
Non, je suis justement, je suis en train de.
Je pense que donc tu connaissais peut-être la pièce Les Mouches, parce que dans le bouquin.
Mais c'est. Je me dis pourquoi il parle de ça.
Voilà, lui.
Non, bien sûr.
De les
mouches,
l'édition Folio qu'a amené Johan, il y a le huis clos, donc le texte de huis clos qui est suivi par Les Mouches. Alors, il y a Les Mouches de Jean-Paul Sartre, et pourquoi Les Mouches de Jordan, c'est ça ?
Et de Martine Foresti,
je tiens à préciser. Et de Martine Foresti, oui, voilà. Bien sûr. La Tata. La Tata, voilà.
D'une célèbre comédienne humoriste
française. Donc, Les Mouches de Jean-Paul Sartre, et. Alors, finalement, c'est ta contribution existentialiste.
Peut-être, mais ça pourrait être intéressant, par contre, que j'inclue dans ce spectacle un passage des mouches de Sartre, justement.
Ah, bonne chance, hein.
Ça pourrait être, justement, ce qui pourrait être très rigolo.
C'est très rigolo, mais la pièce est vraiment, honnêtement, entre nous, c'est imbitable.
Justement, ce qui pourrait être très drôle, c'est que je commence le spectacle par un extrait des mouches en disant, voilà. Ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus léger ce soir. ça pourrait être une bonne chute.
Je pense qu'on comprend tout en trois phrases. Non, c'est une pièce qui, pour le coup, à ma connaissance, n'est jamais montée, et pour cause, enfin, c'est les pièces un peu à thèse de Sartre. Enfin, ça se lit, mais ça se joue pas, quoi, Les Mouches. Et encore. Sartre est un très grand auteur, un très grand philosophe, mais comme tout le monde, il n'a pas fait toutes les bonnes choses.
Très bien. Alors, en tout cas, au Lavoir, est-ce qu'il y a d'autres événements du Lavoir ou autre chose dont
vous parlez ? Plein, parce qu'après, c'est la collection automne-hiver qui démarre. Donc, vous savez que Lavoir, on aime bien couper l'année en deux. Donc, on fait une collection automne-hiver et une collection printemps-été. Là, c'est la collection automne-hiver qui va de septembre à janvier. Moi, après, je vais laisser aussi Johan présenter la suite de la collection. Mais on termine le 22 et dès le 23, comme on est sur... Pluriel Gay. On peut parler de cet après-midi un peu foufou organisé par Wendy Delorme et tout un tas de drag queens de Lyon. C'est l'après-midi Kids and Queens, où on propose du coup aux enfants, qu'ils soient tout petits, moyens ou plus grands, donc bientôt ça vous concernera aussi, Laurence, de venir partager l'après-midi avec les drags. Et du coup, il y a des projections de court-métrage, un atelier maquillage, un goûter avec une chef pâtissière, une boum pour les enfants. Et voilà, c'est comment est-ce que cet univers-là se transmet aussi et s'ouvre à un public qui, a priori, n'est pas forcément destiné à les croiser. C'est sûr qu'ils ne les croisent pas le matin, enfin pendant la nuit, mais du coup, c'est comment est-ce qu'on fait du lien avec tous ces personnages-là, toutes ces personnes-là. Et je pense que ça risque d'être assez chouette, les Kids and Queens, le samedi après-midi. Ce sera le samedi 23 septembre.
Alors là, si Boutin nous écoute, tu lâches.
Tant mieux.
Mais c'est bien parce que ça fait un peu les poupées en live, quoi, finalement, voilà, pour les petites filles.
Je crois que c'est né d'une initiative, il me semble, anglo-saxonne, américaine, où en fait, des drag queens allaient lire des contes dans les médiathèques aux enfants, du coup. Donc tout est un peu parti de là, et donc c'est une déclinaison de cet univers-là. Il y aura bien sûr toute une bande avec Fifi du Calvaire et toutes ses acolytes, et voilà, toute la bande. J'ai plus forcément tous les noms en tête, mais voilà, ça va être assez rigolo. Puis après, il y a du théâtre quand même, parce que c'est le but du Lavoir.
Bah, notamment au Sucre le dimanche 15 octobre.
Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, voilà. C'est du coup, c'est hors les murs, on s'attaque au Sucre.
Et donc là, il y aura une pièce qui a été présentée au Lavoir, qui s'appelle Les Garçons, enfin, tirée des Garçons Sauvages de Burroughs, mise en scène par Pierre Cohen. C'est une espèce de poème sonore avec de la création, musical, et puis il y aura un mois.
Une petite parenthèse, oui,
c'est un hommage aux garçons sauvages.
Voilà, en fait, effectivement, il y aura les garçons sauvages. En fait, c'est un nouveau concept qu'on développe au Sucre à partir du 15 octobre. La première sera le dimanche 15, c'est le dimanche après-midi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait le dimanche après-midi? On écoute du son, on mange, on boit des coups, et on voit un spectacle.
Oui,
on boit des coups.
Donc,
l'idée, ça s'appelle la Club Dimanche, et la Club Dimanche, c'est une tranche de spectacle entre deux tranches de son. Donc, c'est de 16h à 23h, je crois, ou de 16h à 23h, où il y a une première tranche de son, une tranche de spectacle avec pour la première occasion ce clin d'œil effectivement sur les garçons sauvages avec le poème de Burroughs qui est complètement déjanté. C'est en gros Burroughs qui a pris du LSD et qui décrit des soirées complètement démentes. Donc c'est extraordinaire, et auquel participe Joanne. Et puis ensuite, il y a une deuxième tranche de son avec, pour le coup, les DJs seront Colin Marianne et Justy Kid, qui nous fait l'honneur et la complicité de venir pour cette première édition. Donc ça, c'est vraiment le nouveau concept qu'on développe avec Isabelle Favotte au Sucre le dimanche après-midi. Mais pour ce qui est du Lavoir, il y a aussi tous les spectacles de la saison.
Là, Renaud Bécher avec Coltès.
La nuit juste avant les forêts, un très très beau solo du coup sur
Là, il y aura Chloé Bégou avec des poèmes et une violoncelliste. Il y aura tout un mois en janvier Cabaret. Voilà, donc c'est en cours de construction
autour notamment de la figure de Julie Morel qu'on connaît à Lyon du coup. Et donc l'idée, c'est de transformer le Lavoir pendant 3 semaines en cabaret. On ouvre le cabaret du Lavoir, et au sein de ce cabaret se déclineront tout un tas de programmes avec des spectacles, des chants, des choses comme ça. Et Lupo, tu peux nous parler.
Et voilà,
de Lupo.
Et du coup ça sera une qui va arriver en février, 3 comédiennes sortantes du Conservatoire de Lyon, et pareil sur l'idée du cabaret, et donc voilà, une espèce de laboratoire qui va se créer. Ça sera une création qui se fera au Lavoir.
Et on continue en décembre, on reviendra peut-être en parler d'ici là du coup, à cette occasion, le festival Only Porn avec les cultures porno qui débarquent au Lavoir
de Only
en décembre.
Porn. Ouais. On en a déjà parlé.
Ça, avec quel numéro, quelle édition?
Only Porn, eh ben, écoutez, 12, 13, 14, 15, 16, la 6e édition.
La 6e.
Et bien voilà.
Incroyable, mais ça bombe toujours.
Et bien c'est sur cette bonne nouvelle que
on va repartir bien excité.
Mais les rotatives, ça tombe bien. Ah,
on va les rotater.
En tout cas, merci à tous et à toutes, avec un seul E, pas de S à la fin, la seule représentante féminine qui est revenue, Laurence, qui nous a beaucoup manqué pendant tout ce temps. Mais c'était pour la bonne cause.
Ravie de revenir.
Il fallait que tu t'occupes de la petite Garance. Tu es la maman, toi et Sandrine. Donc vous êtes les mamans.
Exactement.
Donc merci Laurence d'être de retour. Ah, Olivier.
Moi j'ai oublié, évidemment, il y a aussi un très très beau spectacle qui revient, qui s'appelle Deadly Noé de Gregory Burke, sur le monde du travail et par les temps qui courent. C'est d'une actualité assez folle. Donc du coup, voilà, j'ai juste oublié, je voulais absolument le citer. Mise en scène par Colin Ray.
D'accord. Ah, mais
c'est pas, pas mon frère. Hein.
Oui.
C'est pas une affaire
de famille.
Vous avez comme par hasard.
Bon, ben nous en reparlerons, puisque de toute façon, Boris. Alors, je crois que Boris, la semaine prochaine, tu ne peux pas être là, c'est ça? Donc, nous aurons Bernardo à la régie.
Oui,
voilà.
C'est ça, je ne peux pas être là.
D'accord, parce que c'est un homme très pris, et donc il ne peut pas toujours être là. Il a beaucoup d'engagement, lui aussi.
Il va avoir un spectacle de danse à la Maison de la Danse. Vous pouvez me rejoindre, c'est à 20h.
Personne n'écoute.
Après. Voilà, très bien, merci Boris d'avoir été à la régie. Merci Bernardo d'avoir supervisé Boris. Merci Laurence donc d'être.
Merci à vous.
Bravo pour ton retour. On aurait pu remettre la petite musique triomphale pour Laurence. Moi, elle me plaît bien cette musique. Bon, non, ils sont pas très réactifs là, local.
Non.
Ils ont levé le casque.
Quelle douce attention.
Il ne vous entend pas. Moi j'ai le casque, mais lui ne vous entend pas. Oui. Donc je répète tout.
Bien sûr. Alors Jeffrey, Jordan, merci d'être venu. Alors
merci,
on rappellera quelques dates essentielles.
Oui, sur le site.
Sur le site, exactement.
Comme ça, tout le monde.
Alors, sur le site de la radio, je précise, de l'émission de radio, hein, de Toi et le Gay, il y a un petit cartouche qui s'ouvre. Il y a toutes les dates de tes spectacles qui sont mises à jour, Jeffrey.
C'est génial.
Voilà. Et au décembre-janvier, donc tu seras au Complexe du Rire, par
c'est
exemple.
C'est ça, en trio.
Rappeler, en trio.
Voilà.
Voilà. Très bien. Olivier et Joanne, merci.
Donc,
merci de votre merci.
On
merci
va buzzer un maximum pour la pièce. Pour
huis clos. Jean-Paul Sartre.
Au Lavoir, du 18 au 22 septembre 2017 après Jésus-Christ.
Dans 2 semaines, c'est ça.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci Gérald.
Merci à vous.
Et merci à tout le monde. Et on va peut-être écouter un petit morceau de musique qui sera coupé, puisque l'émission va s'achever.
Oui, on écoute Sexy Cool de Catherine.
D'accord. Allez, Philippe Catherine.
Bonsoir à tous. Bonsoir. La seule émission LGBT sur Lyon et sa région, chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.